En tout cas, soyez les bienvenus. On est heureux de vous accueillir. On est bien dans la présence de notre Seigneur et on va, sans plus tarder, partager ensemble la parole de notre Seigneur. Alléluia, parce que Dieu se manifeste. Dieu parle souvent, évidemment, de différentes manières, mais la plupart du temps, il va parler par sa parole. Nous voulons être attentifs à ce que le Seigneur veut nous dire. Alléluia, à lui seul, soit toute la gloire. Voilà, j'aimerais vous parler de repos. On est dans une période qui, finalement, se rapporte à ça, hein, le repos, les vacances. Et on va voir ensemble le repos de Dieu. Et dans nos vies, nous avons régulièrement besoin de trouver le repos dans notre Seigneur. Quand on parle, quand on dit, voilà, vacances, on va toujours mettre juste à côté, égal, repos, les doigts de pied en éventail. Vous connaissez ça, hein ? Doigts de pied en éventail, certains vont partir, hein, semaine prochaine, hein, pour quelques semaines, et puis ça va se succéder, mais ça c'est le lot, c'est la période qui veut ça, et c'est bien de prendre un temps, mais pas un temps à être oisif, mais simplement ou profiter de certaines choses, mais le repos de Dieu. Le repos de Dieu, dans la parole, c'est un thème central. Un thème que l'on retrouve régulièrement dans la Bible et qui est riche en signification spirituelle et théologique et également pratique. Parce que le repos de Dieu, il ne s'agit pas de savoir certaines choses, mais de pouvoir le vivre. On peut voir d'emblée l'origine du repos. Et dans cette origine, Dieu va se reposer. On va lire ce passage, évidemment, dans le livre de la Genèse, chapitre 2. Genèse 2. Versets, les trois premiers versets. Ça va, c'est facile à trouver, Genèse. Voilà, je n'entends pas trop de pages, mais...
Oui.
Ouais, hein. Vous êtes tellement rapide que je ne les ai pas entendus. Voilà. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Alléluia. Voilà pour ce passage d'introduction. Ici, on découvre que voilà, le septième jour, le Seigneur donc va créer et pendant six jours, et le septième jour, le Seigneur va se reposer. Il ne serait pas bon que nous puissions comprendre le repos de Dieu parce qu'il s'est reposé parce qu'il était fatigué. Et souvent, on se bat contre la fatigue, mais ce n'est pas le cas de Dieu, parce que déjà, ni il avait besoin de sommeil, ni besoin de rattraper du sommeil. On sait que des fois, hein, je l'ai dit dimanche dernier, hein, certains rattrapent la nuit juste pendant le culte. On voit hein, juste piquer du nez, c'est compliqué, surtout l'été, on a de la difficulté à dormir. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas de Dieu, parce que dans le psaume 121, il est dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Le Dieu d'Israël, alors c'est qu'il veille, il n'avait pas besoin de repos, on va dire, physique. Mais on découvre au travers de cette origine du repos, tout d'abord, ce qu'il est. C'est quoi le repos hein ? On sait que voilà, c'est le sabbat, le shabbat, et ce mot veut dire repos ou cessation. Et on va voir l'importance de ce mot. Il a cessé à un moment donné de quoi ? De créer. Parce que premièrement, l'œuvre était achevée. Verset 2, on l'a lu, Dieu acheva au septième jour, donc son œuvre, l'œuvre achevée. Si un jour on vous a enseigné que l'homme est une évolution, c'est un gros mensonge. Hein? Parce qu'ici, on découvre que l'œuvre a été achevée. Il n'y a pas d'évolution de l'espèce. Oh, on est né, le Seigneur nous a créé. Donc ici, il dit que l'œuvre a été achevée, l'œuvre dans son ensemble. Et quand on voit tout ce que le Seigneur a créé, on peut, alors je le dis comme ça, hein, évidemment avec émotion et avec respect, hein, on peut saluer l'artiste. Quand on voit quoi, ce que le Seigneur a créé, donc les cieux, il a créé la terre, les luminaires, les animaux, et puis il nous a créé. Et j'espère que c'est ce que vous vous êtes dit ce matin, Je te loue, Seigneur, parce que je suis une créature merveilleuse. J'espère que vous vous êtes dit ça ce matin. Hein. Eh oui, parce que la Bible nous exhorte à le faire. L'œuvre achevée du Seigneur, donc pas d'évolution. Et puis Dieu va se reposer. Ce n'est pas simplement un arrêt de travail ici. C'est simplement que Dieu a arrêté sa création, elle est arrivée à son paroxysme, et donc le temps était écoulé, il avait tout créé, et là il prend le temps de se reposer pour finalement bénir, et c'est ce qu'on retrouve, le septième jour. Il bénit le septième jour et toute l'œuvre qu'il avait faite, et quand Dieu bénit le septième jour, c'est un acte de grâce, et en fait il a voulu prendre ce temps pour voir l'œuvre qu'il avait créée, et il trouva que cela était, petit détail, très bon. Très bon, c'était excellent, hein, ce que le Seigneur a créé, donc, et il le bénit. Donc une faveur particulière, c'est un acte de grâce. On s'aperçoit que finalement, quand quelqu'un veut peindre un tableau, c'est comme ça qu'il faut le voir. Hein. Veut peindre un tableau. Alors moi, j'ai pas ce talent. Hein. Je sais qu'il y en a au milieu de nous qui ont ce talent d'artiste. Souvent, ce que l'on fait, c'est que quand on peint un tableau, on prend un peu de distance, on recule un peu pour contempler l'œuvre et on voit si on doit rafistoler, essayer d'arranger certaines choses. En tout cas, le Seigneur, lui, c'est pas dans cette optique-là. Quand c'est cette image. Hein. Il a pris un peu de recul pour contempler son œuvre, et là, il a vu que son œuvre était bénie de sa part. Alléluia. Voilà ce que c'était que ce jour de repos. Également, c'était un jour sanctifié. Un jour de repos régulier. Un jour où, le Seigneur va le dire plus tard, quand il va donner la loi à son peuple, de vraiment obéir et d'exercer ce jour de sabbat, et c'était un repos régulier pour qu'on puisse mettre à part nous-mêmes pour contempler son œuvre. Est-ce que vous êtes toujours émerveillé de l'œuvre que le Seigneur accomplit dans vos vies? Parce que sinon ça va faire de nous des ingrats. Il y aura de l'ingratitude, de dire, eh bien, ok, le Seigneur est venu dans ma vie, puis bon, voilà, je continue ma vie comme ça. À un moment donné, il faut s'arrêter, dire, Seigneur, je veux te remercier. C'est ce qu'on a fait ce matin au travers du partage du pain et du vin, nous nous sommes souvenus. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait, j'ai dit, Seigneur, je te loue. Et je me suis souvenu ce qu'était ma vie avant de connaître le Seigneur. Et là où le Seigneur est venu me chercher dans ma misère, j'étais quelqu'un qui était loin de lui, qui était en rébellion, et ça c'est finalement le cœur de l'homme. Et puis le Seigneur est venu me chercher là où j'étais, il m'a retiré, il m'a tendu sa main secourable, et désormais, il a fait de moi son enfant. Et ça, c'est merveilleux. Alors je veux, et c'est ma prière numéro une, Seigneur, je veux toujours reconnaître que tu es le Dieu de l'éternité, et que tu es celui qui m'a sauvé, et je veux me souvenir, je veux contempler l'œuvre que tu as fait en moi, et qui va se poursuivre. Je vous l'avais dit, le rachat de nos péchés, c'est quelque chose qui a été acquis, une fois pour toutes, à la croix du calvaire. Mais la sanctification, c'est un processus. La marche avec le Seigneur, on grandit de jour à jour. Alors quand je dis on grandit, pour moi, c'est difficile. Hein. On comprend que c'est au sens spirituel, hein, puisque ce n'est pas au sens physique. Hein. Mais on a besoin de grandir, on a besoin de progresser, on a besoin de découvrir certaines choses. Et pour cela, il faut avoir une certaine soif de la part de notre Seigneur. Donc on voit ici que c'était un jour sanctifié pour un repos régulier, et je crois de tout mon cœur que là, au travers de ce jour de repos qui va être donné au peuple, il y a la sagesse, l'intelligence du Seigneur, et lui qui est le Créateur, il sait que nous avons besoin de repos. Il a besoin de trouver le repos, de prendre du repos pour contempler son œuvre. On chante souvent hein, « Quand je contemple ta sainteté », ce chant-là, si chacun d'entre nous, il fallait le comptabiliser, combien de fois on l'a entendu, combien de fois on l'a chanté, mais finalement, combien de fois on l'a chanté et on l'a vécu. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, alors je peux faire qu'une seule chose, c'est de te louer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on n'aura aucune difficulté si nos yeux sont focalisés sur l'œuvre de Christ. Pourra louer le Seigneur de tout notre cœur, alors que personne ne le retienne. Louange, mais contemplons encore le Seigneur. Alléluia. On sait que le sabbat, donc ce repos, marque le sabbat, marque le repos, et c'était pour une seule chose, pour adorer. Adorer le Seigneur, alléluia. C'est notre premier service, ça. Certains veulent aller servir le Seigneur à l'autre bout de la terre. Et ils ont de la difficulté simplement à louer le Seigneur. Déjà, commençons par le commencement. Louer le Seigneur, c'est le premier service. Parce que nous reconnaissons, hein, je le disais, que le Seigneur, il a été bon pour nous, il nous a sauvés. Amen. Que Dieu soit béni. On continue avec, à un moment donné, donc il va y avoir, même ce jour-là, le jour du repos, le jour du sabbat, quand le Seigneur va donner sa loi, il va même dire que les animaux également devaient prendre du repos. Parce qu'en fait, ils s'en servaient pour travailler. Et par ce biais-là, on réalise l'importance du repos. Alléluia. Il y avait des conséquences également. Si on n'appliquait pas dans sa vie ce repos que le Seigneur voulait que le peuple prenne, il y avait des conséquences au non-respect du sabbat. Et la conséquence, elle est simple. Hein. Exode 31, verset 15. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelconque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Et là, on remercie le Seigneur parce qu'on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Alléluia. Amen. Donc, ici, donc, il y avait la conséquence. Et ça nous montre le sérieux de la chose, que ce n'était pas quelque chose de banal, que c'était quand même quelque chose de sérieux et un respect à avoir et à appliquer dans les vies, dans nos vies. Amen. On s'aperçoit que, lors, je disais, nous sommes le peuple de la grâce, et Jésus est venu et il a rectifié le sabbat, parce que l'homme, dès qu'il met sa patte quelque part, il va toujours en mettre plus que ce qu'il en faut. À un moment donné, ils vont réfléchir, hein, parce qu'il y a un passage dans Jérémie qui dit que le jour du sabbat, on doit porter les fardeaux. Et ils ont commencé à réfléchir et à se dire, mais de quel fardeau le Seigneur a voulu nous informer? C'est combien de fardeaux je peux apporter? Et donc, à partir de là, et à partir de cette réflexion, ils ont commencé à rajouter des lois concernant le sabbat. Et Jésus, lui, va venir, il va rectifier. Vous remarquerez avec moi que dans les évangiles, souvent Jésus, il se plaisait de faire des miracles le jour du sabbat. Pour confronter ces pharisiens qui étaient omnibulés avec ces œillères au niveau de leurs yeux, il y avait cette religion, mais le mauvais côté de la religion, avec tu feras, tu feras pas, tu goûteras, tu ne fais pas ceci, ne fais pas cela, alors que c'était pas ça ce que le Seigneur avait voulu au tout début. Alors Jésus va rectifier, parce que Jésus est le maître du sabbat. Même pas en amen, mais bon, on continue, hein. On continue. Frères et sœurs, goûtons, hein, réalisons ce que nous entendons. Jésus est le maître du sabbat. Vous rappelez l'homme à la main sèche. Cet homme, il va se retrouver dans une réunion où normalement il n'avait pas le droit d'être là. Parce que donc son handicap l'excluait de ce moment. Alors on ne sait pas pourquoi il se retrouve là. Un homme à la main sèche, sûrement. On peut l'imaginer. La parole ne le dit pas, mais on peut l'imaginer. Qu'il avait porté des vêtements amples et il a caché sa main, tout simplement. Personne n'en a vu. Et puis il va se retrouver là. Jésus, donc, va faire une œuvre extraordinaire, un miracle merveilleux, une guérison, et le jour du sabbat. Parce qu'à ce moment-là, les pharisiens, ils étaient attentifs. Ils voulaient voir si Jésus allait opérer un miracle le jour du sabbat pour le prendre à défaut et trouver une excuse pour l'accuser. De finalement de ne pas accomplir la loi. Et c'est donc Jésus va arriver, il va faire ce miracle, et puis on sait ce qui va se passer. Et là on s'aperçoit que Jésus, par cette action-là, il a voulu rectifier le repos, il a voulu rectifier le sabbat. Et pour nous, encore une fois, le peuple de la grâce, évidemment que nous ne sommes plus dans l'obligation de faire le sabbat. D'ailleurs, sabbat, en général, c'était le samedi, hein, en espagnol. Samedi se dit sabbat. Hein. Donc, on voit ici une corrélation. Et en fait, pour nous, ce que le Seigneur a voulu nous communiquer, c'est comprendre l'esprit du repos, l'esprit du sabbat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit pouvoir arrêter notre activité, nos activités, parce qu'on est obligé de travailler. Vous le savez qu'on est obligé de travailler ? Eh oui, hein, pour vivre. Une conséquence du péché. Ouais, on s'en souvient. Dans les Thessaloniciens, il est dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, je veux dire, c'est radical, hein, n'est-ce pas ? Mais c'est la parole qui le dit, pour ne pas être oisif, mais pour être dans l'action. Et nous devons nous-mêmes comprendre l'esprit du sabbat. Jésus est notre sabbat. Et donc on doit se réfugier en lui et prendre du temps ensemble. Et je crois de tout mon cœur, si quelqu'un ce matin se dit, mais finalement c'est pas grave, de prendre du temps, de venir, d'être ensemble en tant que peuple de Dieu, alors ça sous-entend que vous êtes plus important que Dieu. Parce que Dieu lui-même a pris ce temps de repos. Et si nous, dans notre état d'esprit, on se dit, moi j'en ai pas besoin, alors on peut se dire qu'on est au-dessus de Dieu, on peut se comparer au-delà de ce qu'est le Seigneur. Nous devons comprendre réellement que c'est tellement important de prendre du repos. On va le voir, on va le développer, pas n'importe quel repos, en restant toute la journée, toute une semaine, affalé sur un canapé ou un sofa, donc c'est ou un hamac, ou je sais quoi d'autre, c'est pas tout à fait cela. Le sabbat devient un symbole du repos divin, sanctifié et béni de la part de notre Seigneur. On continue la lecture dans Exode 20, c'est là où il va y avoir la loi, le rappel de la loi, avec ces paroles. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est ce qu'on a vu. C'est un récapitulatif de ce qu'on a vu, et donc qui a été repris de la Genèse. C'était le passage en introduction. Donc on a vu l'origine du repos et du sabbat du Seigneur. Mais ce repos, il est là pour que l'on soit en communion avec Dieu. C'est à un moment donné faire une pause pour, dans nos activités, dans le travail, et pour se consacrer au Seigneur. Le repos biblique signifie être avec Dieu. Dans les psaumes, même au cœur de la souffrance, le psalmiste trouve le repos car Dieu est présent avec lui. Regardez, psaume 116, verset 7. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. On est plusieurs à le dire ce matin. Le Seigneur vous a fait du bien. Il va continuer à le faire parce que Dieu est fidèle. Il continue, il est bonté, hein, il est amour, il est grâce et il est bonté. Amen. Ici, le psalmiste donc, il se rappelle que même au milieu des souffrances, si vous lisez le psaume 116 en entier, vous allez vous apercevoir que traverser des moments difficiles, mais il parle à son âme. Est-ce que vous parlez à votre âme ? Il faut, hein ? Parlez à votre âme. Il dit, mon âme, retourne à ton repos. Ça sous-entend qu'il avait perdu par les souffrances. Et mais retourne à ton repos, car l'Éternel, il t'a fait du bien. Là, c'est un conseil, une exhortation à se rappeler que le Seigneur lui a fait du bien. Non seulement il lui a fait du bien, il va continuer de le faire. Et pour nous, c'est également la même histoire. Hein ? Le Seigneur, il est bon et il veut encore nous bénir. Alléluia. On sait également que le temple est appelé le lieu de repos. Lieu de repos où Dieu habite et rencontre son peuple. Pendant trois mardis, ceux qui étaient là, on a fait une étude sur le tabernacle. Et moi, je suis toujours émerveillé de savoir qu'à un moment donné, donc, Dieu se manifestait à l'extérieur du camp. Enfin, il parlait avec Moïse sur la montagne. Puis à un moment donné, Dieu a voulu habiter au milieu de son peuple. Alléluia. Et au milieu de son peuple, au milieu, voilà, des souffrances de son peuple, des questionnements. Dieu veut être au milieu, c'est-à-dire Dieu au centre de son peuple et au centre de nos vies. Alléluia. Amen. Alors, il va faire voir. Hein. Alors, on le disait hein, il y a quelques mardis. Il va dire à Moïse, « Fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Alors, on ne sait pas comment il a reçu ce modèle-là, comment il l'a vu, comment il l'a perçu, en 3D ou pas, est-ce qu'il y avait les outils modernes, mais en tout cas, il l'a fait. Et ce qu'on doit retenir, c'est que Dieu a enclenché une nouvelle relation avec son peuple, c'est de venir au milieu d'eux. Alléluia! Nous avons un privilège extraordinaire. Des fois, on a de la difficulté, on a du zèle pour plein de choses, et on a de la difficulté simplement à venir dans la présence du Seigneur, à faire taire mon ego, qui ne veut pas que j'ouvre la bouche. Parce qu'en général, c'est ça. Hein. Pour dire, Seigneur, je veux te louer. Je veux que tu sois au centre de ma vie. Je prends la décision de te louer, d'ouvrir ma bouche. Je sais que vous le faites dans votre cœur. Mais on a besoin de pouvoir exprimer cela en tant que peuple de Dieu. Il ne devrait pas y avoir de ta mort. On devrait se battre. Alors, c'est une image. Évidemment. Hein. Pour louer le Seigneur, nous avons cette opportunité. Je sais que vous le faites à la maison, mais quand nous sommes ensemble, privilégiez ces temps où on fait monter ensemble des clameurs de joie. Alléluia. Il n'y a qu'à l'église où on se tient tranquille. Moi j'ai remarqué, hein, dès qu'on dit le Amen final, ah, il y a du bruit. Hein. Et ça part, et c'est bien, c'est la communion. Merci Seigneur, c'est ça la communion. Mais quand on est avec le Seigneur, il faut qu'il y ait cette effervescence, pas fabriquée par l'homme, hein. Évidemment. Mais on considère, on vient tous avec ce même but, et il y a de l'effervescence. Si on ne supporte pas la ferveur, ben je ne sais pas comment ça va se passer au ciel pour vous, hein. Je prie. Hein. Vraiment. Parce que moi je vois dans la parole, que quand on va se retrouver là-haut, donc il va y avoir de la ferveur, de la clameur, il va y avoir, voilà, on a été peut-être pour certains, hein, comme moi, dans des stades, plus de 60 000 personnes au même endroit, et qui encouragent leur équipe favorite, je vous promets que ça fait du bruit, hein. Et la Bible nous dit que quand nous allons nous retrouver là-haut, ça sera comme le bruit de grandes eaux, du tonnerre, et donc si on veut la tranquillité, ça ne sera pas là-haut. Peut-être que c'est la mauvaise nouvelle du matin pour quelqu'un, mais voilà, de la ferveur. Et frères et sœurs, hein, voilà, on se connaît, on a tous de la ferveur pour quelque chose. Je suis sûr et certain. Par exemple, si on communique avec quelqu'un sur une passion quelconque, hein, il y a des bonnes passions, hein, voilà, l'art, la musique, vous allez vite vous apercevoir avec quelqu'un ce qui va le toucher. Quand on parle de quelque chose qui l'intéresse, il y a comme une passion, une ferveur qui est là. Moi, je ne sais pas vous, hein, mais moi, je veux être passionné de Christ, de ma relation avec lui. Alléluia. Et je ne veux pas laisser à ma chair me dicter quoi que ce soit. Que le Seigneur nous aide vraiment à réfléchir à ça. Et c'est ce qui s'est passé ici pour le psalmiste. Encore un verset. Donc, le temple qui est appelé lieu de repos, c'est mon lieu de repos. Toujours j'y habiterai, car je l'ai désiré. Amen. Ici, c'est une action de Dieu. Un lieu de repos. Encore une fois, on l'a expérimenté. Alors qu'on était bombardés, on était dans les difficultés, dans les épreuves. On est venu donc dans la présence du Seigneur et on a expérimenté le repos. Et une âme apaisée, ça a de la valeur. Vivre dans l'apaisement. Le contraire, vivre dans les tourments, dans les difficultés, c'est quelque chose qui est terrible. On s'aperçoit également que le repos, c'est une promesse. Hébreux, chapitre 4, nous en parle. Promesse du Seigneur, Hébreux, chapitre 4. Regardez l'encouragement du Seigneur. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraissent être venus trop tard. On voit ici que le repos est une promesse Et également une invitation de la part du Seigneur. Venez vous reposer auprès de moi. Peut-être toi qui, je le répète, qui traverses des moments difficiles, des moments compliqués, où le soleil de l'épreuve frappe. Tu es constamment en activité. La seule chose que nous ayons à faire, c'est d'aller dans la présence de Dieu, nous réfugier dans la présence de Dieu, afin de bénéficier du repos du Seigneur et enfin d'être apaisé. Au verset 2, il est dit... Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi. Alors ici, on s'aperçoit que le repos, c'est en rapport avec la foi. Ici, il est parlé du peuple dans le désert. À un moment donné, ils n'ont pas trouvé donc, ce repos. Et là, il rappelle que... C'est par cette bonne nouvelle. Que tout d'abord, c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Vous ne trouvez pas qu'au milieu de toutes les mauvaises nouvelles que l'on entend, on a besoin de bonnes nouvelles? Et la bonne nouvelle, c'est celle-ci, hein, c'est d'entrer, d'être dans ce repos et dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Et le repos qui nous sera donné, il sera complet. Amen. D'ailleurs, rappelez-vous, hein, quand on donne notre vie au Seigneur, et, on est là comme comblé. Il y a ce repos qui vient là, on goûte à la paix, à la présence du Seigneur, quelque chose de nouveau, assez déstabilisant pour nos vies, hein, mais assez reposant. On se repose hein, de tout ce que la vie veut nous infliger. Verset 3, on continue la lecture, il dit « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. Je jurai dans ma colère, quand Dieu jure, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Ici, ce repos est accessible aujourd'hui pour ceux qui croient. Donc c'est un rapport avec la foi, parce que le peuple s'est aperçu hein, que finalement, ils n'avaient que quelques jours, on va dire, de marche pour aller dans le pays promis, mais à cause de leur désobéissance, leur dureté de cœur, leur coup raide. Le coup raide, hein, c'est pour dire que l'orgueil était là, en fait. Hein. Marcher la tête haute, et puis ça va prendre du temps. À tel point qu'ils vont manquer le but. Il y en a peu qui ont réussi et accompli et terminé hein, et rentré dans ce pays promis. Mais ce repos est accessible encore aujourd'hui pour tous ceux qui croient. Et on croit que ce repos est accessible pour nous tous. On saute quelques versets et on va au verset 6, toujours de Hébreux 4. Voilà qui nous dit ceci. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Ici, on voit pourquoi le peuple n'est pas rentré. À cause de la désobéissance. Donc, pour pouvoir rentrer dans le repos de Dieu, il faut rentrer dans cette obéissance à Christ. Alléluia. Amen. Et c'est un appel qui est présent pour chacun d'entre nous. Amen. Donc, le repos, c'est une promesse pour nous tous. Amen. On continue. Et également, le repos, je l'ai dit en introduction, le repos et la rédemption se trouvent en Christ. Jésus est le Messie, il est hein, c'est le nouveau Josué, c'est cette image qui nous fait entrer dans le repos de Dieu, parce que en fait, le Seigneur avait appelé Josué pour cette œuvre, hein, faire rentrer le peuple dans le repos. On sait que par désobéissance, ils ont manqué le but, mais Jésus, lui, va venir et il poursuit le même but, nous faire rentrer dans ce repos. Le cœur de l'homme aspire au repos. Je suis sûr qu'aujourd'hui, ici, il n'y a personne qui puisse se dire « Mais moi, je ne veux pas de repos, je veux continuer hein, à vivre dans les tourments, à vivre la difficulté et à me fatiguer encore et toujours. » On aspire tous. On aspire au repos, on aspire à la paix, on aspire à la sécurité. Jésus invite et donne du repos. Il y a ce verset qui est très populaire, hein, on se sert de ce verset pour l'évangélisation. De Matthieu chapitre 11 et le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi ? Du repos, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Ici, le Seigneur nous propose le repos. Il dit, venez à moi. Remarquez que le Seigneur, c'est pas... Alors, il fait l'action. Hein. Et une fois qu'il se présente, il dit, mais c'est à vous de venir. Venez à moi. Venez pas à quelqu'un d'autre. Venez pas à une religion, une dénomination quelconque. On n'a rien contre les dénominations, évidemment. C'est même voilà, une bonne chose. Mais venez en priorité à Jésus. Qui ? Vous tous qui êtes fatigués. Et la vie, elle fatigue. Quand on se charge de certaines choses dans nos vies, alors il va y avoir cette fatigue qui va venir, hein, fatigue spirituelle. Et le Seigneur dit, ben, si vous venez, vous qui êtes chargés, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Et je remarque que ce repos n'est pas payant, il est donné. Il est simplement proposé à chacun d'entre nous. Ce qui sous-entend qu'on doit l'accepter tout simplement. C'est comme ce cadeau immérité que le Seigneur nous donne. Alors quand il est parlé ici de repos, il y a plusieurs formes et types de repos. Il y a tout d'abord le repos de la conscience. La conscience, quand elle est travaillée, hein, dans son état naturel, l'homme est ennemi de Dieu. Et la première des choses que Dieu va faire, hein, que le Seigneur, le Saint-Esprit, va œuvrer dans la vie ou dans le cœur de quelqu'un, c'est de réveiller la conscience. Et souvent, il va le faire au travers de sa parole, à travers un message, de façon extraordinaire. Hein. Moi, je sais ici que pour la plupart, je connais les témoignages, ils sont tous bouleversants, hein, l'un comme l'autre. Et moi, je suis toujours émerveillé de savoir comment le Seigneur, il agit, comment il fait. Et à chacun, c'est différent. Mais en tout cas, une chose certaine, c'est qu'on était ennemis de Dieu, ne l'oublions jamais. On était ennemis de Dieu. Et donc, le Seigneur vient réveiller notre conscience. D'ailleurs, le fils prodigue, c'est comme ça hein, qu'il va revenir auprès de son père. À un moment donné, il va commencer à réfléchir et dire, mais qu'est-ce que je fais là? C'est ça ma vie? Est-ce que je suis simplement appelé à vivre ces choses-là ou à vivre davantage? Et puis il va rentrer dans une réflexion. Chez mon père, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Et par ma folie, par mon ambition à aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs, ben, je m'aperçois que finalement, dans ma vie, tout n'est que désastre. Voilà où je me trouve. Mais ça, c'est la conscience, c'est le Saint-Esprit qui commence à œuvrer, à toucher les cœurs, et voilà, faire un état des lieux, un état de cœur, pour voir où nous en sommes. Et donc, il va, et c'est là où on voit que si ça reste à ce stade-là, ça va pas aller plus loin, rien ne va changer. Il y a une action, il va y avoir un plan d'action, il va dire, mais j'irai chez mon père. Je me lèverai, j'irai chez mon père, et je lui dirai. Ces choses-là, déjà, elles sont importantes. Il n'a pas le temps de pouvoir dire ces choses hein, que son père déjà est scruté au loin, si, peut-être, je sais, alors le passage ne le dit pas, tous les jours, sûrement, s'il reconnaissait au loin la silhouette de son fils. Puis un jour, il reconnaît au loin. Et le père fait quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque, hein. Il va courir, il va le prendre, il va l'embrasser. Et des fois, on oublie hein, qu'il sentait toujours le cochon. Quelle belle image pour chacun d'entre nous. Nous sentions le cochon avant que le Seigneur vienne nous nettoyer. En fait, ça nous parle de péché. Et donc, vous voyez, quand la conscience commence à être réveillée, alors, il y a des grandes choses qui vont se passer. On sait qu'après, il va y avoir des réjouissances, ils vont tuer le veau gras, il va être réhabilité dans sa fonction, en fait, de fils, hein, dans sa position de fils. Et en fait, c'est cette image pour chacun d'entre nous. Quand le Seigneur, au travers de sa parole, veut toucher notre conscience, c'est parce qu'il veut nous amener plus loin. Ne remettez jamais au lendemain ce que le Seigneur nous demande là, aujourd'hui. C'est peut-être d'obéir dans une certaine situation, de prendre des choses, les choses en main, et de se dire, mais Seigneur, moi je veux plus de toi, être ambitieux pour le Seigneur, on en a parlé dimanche dernier, hein. Des fois, on est ambitieux pour les choses terrestres. Et gloire à Dieu, il faut de l'ambition. Le travail, la maison, le travail, la voiture, j'en sais rien. Un mariage pour les jeunes, c'est des bonnes ambitions. Mais grandir pour le Seigneur, progresser, aller de l'avant, exercer les dons spirituels, gagner des âmes à Christ. Amen. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Alors, la conscience, quand elle est réveillée, c'est là où le Seigneur commence à agir. Amen. On s'aperçoit que le repos que donne notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une délivrance du péché. Et quand on est délivré, libéré du péché, le péché n'a plus d'emprise sur nous. Ça ne veut pas dire qu'on en a fini avec le péché. Il est toujours là, il se couche à notre porte. On doit veiller, évidemment. Et ça nous arrive encore de ne pas être à la hauteur, de trébucher. Un jour, je disais à quelqu'un, souvent, on trébuche à la même pierre, au même endroit. On se laisse avoir. Mais Dieu est un Dieu de grâce, où il est dit dans sa parole que c'est un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Notre responsabilité, c'est de lui demander pardon. Le Seigneur nous pardonne autant de fois que nous ayons besoin. La délivrance du péché nous allège. On se sent léger. Il y a cette paix intérieure qui vient. Et donc Jésus-Christ est lui-même notre paix. Et puis c'est une réconciliation avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Ce matin, c'est un peu le thème. Être réconcilié avec le Seigneur. Alléluia. Pour nous qui avons donné notre vie au Seigneur, nous voulons nous souvenir de cela. C'est qu'à un moment donné, hein, on était donc en rébellion avec le Seigneur, la colère de Dieu était là, et puis le Seigneur nous a donné donc la réconciliation. Et désormais, nous jouissons d'une position qui est tellement merveilleuse. Amen. Ils sont une réconciliation avec le Seigneur parce que justifiés sur la base de la foi, et quand on fait cela, donc on a la paix par Jésus-Christ. Amen. Donc repos de la conscience. Repos du cœur. C'est ce que nous offre le Seigneur. Au verset 29, il rattache l'invitation, on l'a lu donc Matthieu 11, 29, il rattache l'invitation à prendre son joug. Aujourd'hui, certains se disent chrétiens, nés de nouveau, et à la place du joug, vous savez ce que c'est qu'un joug, hein? Une pièce de bois où on mettait les animaux afin qu'ils puissent être conduits et bien dirigés. Souvent, à la place qui revient à notre Seigneur Jésus, il n'y a personne et on veut diriger notre vie nous-mêmes. Et si c'est le cas, alors une chose est certaine, c'est qu'on ne trouvera jamais le chemin en tournant en rond. C'est quelque chose que l'on doit appliquer chacun dans notre vie. C'est-à-dire que sous ce joug, l'image, elle est extraordinaire. Il faut en premier lieu qu'il y ait le Seigneur. Et moi-même, dans la soumission, je mets ma tête dans ce joug et je me laisse conduire par le Seigneur. Alléluia. Et ça va faire, pour moi, les résultats, une vie équilibrée, une vie stable. On a besoin de stabilité. Hein. Et plus que jamais, on a besoin de chrétiens stables. Tellement connus, hein, des chrétiens... Un pas en avant, deux pas en arrière. Puis au bout d'un moment, on les cherche, on ne les voit plus. Que le Seigneur nous aide vraiment à avoir ce rapport de joug. Donc ici, il rattache l'invitation à prendre son joug et à apprendre de lui. Et celui qui n'est pas trouvé dans ce joug, alors évidemment, hein, il y a cette fameuse liberté. Souvent, on l'entend. Hein. Et la paix du cœur est appelée également la paix de Christ. Regardez Colossiens chapitre 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Alléluia. La paix du Seigneur, qu'elle puisse régner donc chacun d'entre nous. Alléluia. Et si elle règne à chacun d'entre nous, elle va régner au milieu de son Église. Alléluia. La paix du cœur. Une richesse merveilleuse. Les conditions précises pour avoir cette paix, donc prendre son joug, qui fait allusion à cette entière soumission. Peut-être ce matin, tu dois simplement apprendre à te soumettre au Seigneur. Soumets-toi au Seigneur. Ce passage, il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Puis l'ennemi, hein, il va détaler. Hein. Mais d'abord, souvent on l'oublie, c'est de se soumettre au Seigneur. On peut gérer nos vies comme on le veut, mais si c'est ça, alors c'est sûr qu'il va y avoir des difficultés pour qu'il y ait cette dépendance. Aujourd'hui, il y a des mots qui résonnent négativement. On parle de dépendance. De suite, il va y avoir comme certaines réactions pour certains. Dépendance affective, dépendance, voilà, plein de dépendance. Mais la Bible nous demande de dépendre du Seigneur. Chaque jour suffit sa peine. Seigneur, je te fais confiance pour ma vie. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Et vous savez quoi, on est plusieurs ici, on pourrait passer le reste peut-être de l'après-midi à témoigner que quand on a décidé de se mettre sous le joug du Seigneur, de se soumettre au Seigneur, et que notre vie en dépende totalement, c'est là qu'on découvre la liberté. C'est un paradoxe en fait. On a cette liberté, on grandit avec notre Dieu. Amen. Donc dépendance à Dieu, à prendre de lui. Et il y a une belle image pour la dépendance de Dieu. Attendre la nourriture qui vient du ciel. Vous vous rappelez de la manne dans le désert, le peuple était là, donc sans ressources, et ils attendaient tous les jours la manne. C'est avec ce même état de cœur. Parce qu'en fait, c'était vital pour eux. C'était leur seule façon de subvenir à leurs besoins. C'est de dépendre de Dieu. Que chaque jour, tu puisses t'attendre à ce que le Seigneur te donne cette manne. Le pain de vie, c'est ce qu'il va dire au Seigneur. Je suis le pain de vie. Alléluia. Et même, il dit, je suis le pain qui donne la vie. Alors on doit le manger, ce pain, jour après jour. Certains n'ont pas compris ce message, ce passage. Ils l'ont mal interprété. Voilà. Mais en tout cas, tous les jours, goûter à ce pain, c'est vital. Hein, le pain. D'ailleurs, un repas sans pain manque quelque chose. Tellement central, le pain. Et le Seigneur dit, moi je suis le pain qui donne la vie. Alors dépendre à Dieu ne consiste évidemment pas à rien faire ou à attendre passivement une solution. Dépendre du Seigneur, c'est que je sais que la chose, elle va arriver. Parce que Dieu est un Dieu qui fait des promesses. Et des fois le Seigneur vient un peu nous tester. On n'aime pas hein, les tests de la foi. Parce que souvent, Seigneur, quand on passe ici par les eaux du baptême, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. Et puis dans les mauvais jours, Seigneur, tu es où? Le Seigneur dit, mais en fait, je suis en train de travailler. Je travaille ton cœur. Je travaille ta mentalité. Nous, on est dans les patiences. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais impatient. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et le Seigneur travaille nos cœurs, ça ne se fera jamais tranquille. On va se lever le matin, on sera patient. Vous savez ce que va faire le Seigneur? Il va nous réunir ensemble. Il va faire de nous son église, avec des caractères différents, et les caractères, ils vont s'affiner. À un moment donné, peut-être il y a un frère, une sœur, qui nous casse les pieds. C'est le Seigneur. Donne-moi de la patience. Mais le Seigneur est en train de travailler mon caractère. C'est ça. Il est en train d'œuvrer. Et souvent, on ne le voit pas comme cela. Et c'est pour ça que certains, et l'ennemi le sait très bien, hein, aujourd'hui, il attaque les églises en disant, mais tu n'as pas besoin d'église. Tu peux te suffire à toi-même. C'est vrai, hein, il y a une part de vérité. Aujourd'hui, on peut aller sur Internet, donc prendre les 4 ou 5 chants favoris, notre pasteur favori, pas celui que j'ai sur place à l'église, hein, lui, il a des progrès à faire, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, celui vraiment, alors là, lui, mais on oublie que cette partie-là, c'est que mon frère et ma sœur, le Seigneur va l'utiliser, vous savez pourquoi ? Souvent c'est comme ça, hein. Pour nous donner le dernier coup fatal. Parce que la parole nous dit que nous devons mourir à nous-mêmes. Et pour mourir à nous-mêmes, il faut bien que quelqu'un mette un coup. Hein. Alors, ceux qui ont de l'expérience commencent à sourire parce qu'on est passé par là tous. On apprend. Hein. Supportez-vous les uns et les autres. Seigneur, c'est sûr? Oui, c'est sûr. Il doit supporter. Alors supporter, évidemment, hein, il y a deux définitions. Hein. Il y a celle voilà, de se supporter. On doit supporter le faible, s'encourager. Mais également, supporter, d'où est sorti le mot supporter. Vous savez ce que c'est qu'un supporter, hein? Supporter, voilà, il clame, il affiche les couleurs, et c'est ça, c'est « Allez, mon frère, ma soeur, allez, tu vas y arriver. » Mais pour ça, ben, il faut être là, hein? Parce que si on supporte de loin... Alors, voilà ce repos, et je vais terminer. Le repos parfait, on pourra le retrouver là-haut. C'est un repos céleste. On l'a vu ensemble, la fatigue, c'est un fait. Certaines sortes de fatigue sont légitimes, normales, inévitables. Si vous faites des journées de 12 à 15 heures, vous allez vite vous apercevoir qu'en fin de semaine, on est fatigué. Hein. C'est pas de cette fatigue qu'on parle. Et pourtant, il existe un paradoxe dans la Bible. J'aime beaucoup les paradoxes dans la Bible. Regardez, on va en voir un ici. Isaïe 40, verset 30, verset que l'on connaît bien. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, qu'est-ce qu'ils font? Ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Normalement, c'est le contraire. Plus on court, plus on est fatigué. Mais ici, comme c'est quelque chose de surnaturel, au plus on court avec le Seigneur, et moins on se fatigue. Un paradoxe. Mais c'est possible avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a certaines fatigues qui nous sont nuisibles, comme la désobéissance. Quelque chose qui fatigue nos vies. Chercher à contourner la parole de Dieu. Le peuple, la Bible regorge de situations d'histoire où certains, même le peuple de Dieu, s'est fabriqué des faux dieux. C'est terrible. Ça peut arriver. Chercher les choses secondaires, ou s'arrêter que sur les choses secondaires, et oublier les principales. Ça fatigue. Se plaindre et gémir sans cesse. Vous connaissez des personnes comme ça qui se plaignent tout le temps? Alors ne dites pas leur nom. Ne pas faire ce que Dieu demande. Ça apporte de la fatigue. Est-ce que vous savez qu'on peut fatiguer Dieu aussi? Je vous le laisse, hein? Ésaïe 43, verset 22. Le Seigneur va dire, mais ce peuple, il me fatigue. Et pourtant, sans cesse, il va proposer de le relever, de lui apporter une solution dans l'état où il se trouve, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. Donc on peut fatiguer le Seigneur. Pour Israël, le repos était lié à la terre promise. Josué 21, 44. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Vous voyez le repos. L'Éternel leur accorda le repos. Mais pour nous, les croyants, il est aussi une espérance céleste. Et on termine les derniers versets de la matinée, 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18, que l'on connaît bien également. Car le Seigneur lui-même, au signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18, consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Vous vous rappelez, hein, du rêve d'Icare qui a toujours voulu voler. Si la parole de Dieu nous dit que ben, nous irons à la rencontre et nous serons dans les cieux. Alors comment ça va se passer? Certains ont beaucoup d'imagination. Moi je veux juste me préoccuper de partir dans ce voyage-là. Après, comment ça va se passer? Alors, la Bible nous donne quelques renseignements. Mais finalement, le plus important, c'est d'être prêt pour le retour du Seigneur et vivre actuellement le repos de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, j'aimerais vous dire, bonnes vacances. Bon repos en Jésus-Christ. Et on va pouvoir utiliser ce temps, peut-être, c'est un conseil. Hein? Ce temps où, ben voilà, on est en vacances pour approfondir un sujet dans la Bible. Lire un bon livre sur la doctrine, certaines choses. Voilà, pour approfondir, un temps de prière, on a davantage de temps. Ça ne nous empêche pas après d'aller faire des activités. Mais si on fait ça, alors on va en retrouver tous les bénéfices pour notre marche chrétienne et ça va fortifier l'Église de Christ. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, merci encore pour ta parole. Seigneur, merci parce que tu veux nous faire goûter à ce repos. Seigneur, merci pour le repos du cœur, le repos de la conscience. Seigneur mon Dieu, merci pour la vie que tu nous as offert. Seigneur, et quand nous sommes venus à toi, nous avons goûté à ce repos, alors nous voulons le préserver. Nous ne voulons pas laisser certaines choses s'accaparer de nos vies, Seigneur, et de nous trouver fatigués, las, traînant, Seigneur, être derrière le troupeau, Seigneur, et nous savons qu'il y a un danger, Seigneur, à faire cela. C'est qu'il y a un ennemi qui veut dévorer, qui veut égorger, qui veut isoler certains membres, certains enfants de Dieu. Seigneur, je te demande que chacun d'entre nous puissions prendre conscience que tu nous invites à prendre ce repos. Le repos auprès de toi, Seigneur mon Dieu, pour avoir l'âme tranquille, pour être près de toi, Seigneur. Comme dit ta parole, que nous puissions rester auprès de ces fleuves, fleuves de tranquillité, et que nous puissions te glorifier, Seigneur Jésus-Christ, en toutes choses. Seigneur, je veux te prier pour celui et celle qui traverse des moments difficiles, celui qui peut-être est fatigué. Seigneur, je veux te prier pour que ce matin, cette parole résonne dans les cœurs, qu'il puisse y avoir un écho, Seigneur, afin de venir dans ta présence et goûter, Seigneur, à ton repos qui n'a pas de prix. Seigneur, bénis les bien-aimés, bénis-nous, Seigneur, cette semaine, et à toi seul, nous voulons donner toute la gloire. Merci, ô notre Dieu. Amen et Amen.